Chers amis, je vous propose une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Prophète Ésaïe, nous lisions hier soir les tout premiers versets de ce grand livre prophétique, mais ce soir nous allons au chapitre 33. Ésaïe 33, dont nous lisons les versets 13 à 17. Ésaïe 33, versets 13 à 17. Passage qui, comme celui d'hier soir, est introduit par un impératif d'écoute. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Nous reviendrons sur ce texte dans un instant. Nous relisons le texte qui reviendra rencontre après rencontre comme un refrain. Nous le saurons, je l'espère par cœur, si ce n'est pas encore le cas, dans Romains 12. Il s'agit donc des deux premiers versets, Romains 12, versets 1 et 2, où Paul donc introduit la partie pratique de cette épître éminente, comme nous l'avons déjà vu hier soir. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement transformé par le renouvellement de l'intelligence, de votre mentalité, afin que vous discerniez et appréciez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans notre introduction générale au sujet, hier soir, nous avons tout d'abord considéré l'importance première, stratégique, de l'Épître aux Romains, cathédrale de la foi chrétienne, clé d'or des Écritures. que Dieu a utilisé tout au long de l'histoire de l'Église pour de profonds réveils spirituels en travaillant dans le cœur de personnes qui se sont avérées personnages clés dans l'histoire de l'Église. Nous avons évoqué Martin Luther, John Wesley, mais bien avant eux, Augustin d'Hippone ou Saint Augustin, et nous aurions pu ainsi poursuivre notre galerie de portraits. Cet épître de Paul aux Romains a été à la base d'un réveil spirituel fort important en Suisse et en France au début du XIXe siècle, qui a vu dans la souveraineté de Dieu l'éclosion de toute une équipe de théologiens évangéliques absolument remarquables. Et nous nous sommes posés hier soir cette question, mais pourquoi donc un tel impact que celui de cet épître aux Romains ? Et nous avons souligné tout d'abord quel était l'exposé le plus complet que les Écritures donnent de la doctrine du salut par la foi. Nous avons remarqué aussi que cet épître s'adresse tout d'abord, dans un premier temps dans l'histoire, à l'église de Jésus-Christ dans la capitale de l'Empire romain. D'où donc le message va pouvoir rayonner. Nous avons aussi remarqué que ce message va arriver dans l'église de Jésus-Christ à Rome alors que cette église va bientôt traverser une période de douloureuse épreuve, de persécution, à laquelle elle doit être solidement préparée. Et à partir de là, nous nous sommes penchés sur le plan de cet épître au regard de ces deux versets du chapitre 12 qui introduisent sa partie pratique. Et vous avez remarqué avec moi, vous qui étiez là hier soir, cette merveilleuse construction concernant le message du salut. Nous avons évoqué dans un premier temps ces trois grandes parties: philosophie du salut dans les huit premiers chapitres, suivi de ce qu'on peut appeler la philosophie de l'histoire, le regard de Dieu sur l'histoire, en particulier au niveau du peuple juif et en relation avec sa justice appliquée à ce peuple juif. Chapitre 9, 10 et 11. Et puis une troisième partie, chapitre 12 à 15, philosophie de la conduite, parce que la connaissance en elle-même enfle, souvent se traduit en orgueil. Et Dieu nous rappelle continuellement dans les Écritures que toute connaissance doctrinale doit ensuite passer dans les faits pour faire de nous des disciples de Jésus-Christ adultes, mûrs, féconds, non seulement des enfants et des jeunes gens, mais aussi des pères et des mères qui portent du fruit qui demeure. Et puis nous avons commencé donc à nous pencher sur le thème qui nous intéresse tout particulièrement, puisqu'il va donner un relief saisissant à notre thème « Offrez vos corps et offrez vos cœurs », les deux dimensions étant indissociables. à savoir donc la philosophie du salut. Et nous avons vu que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, commence son épître au-delà du préambule, d'une assez brève introduction, de manière assez désagréable, puisqu'il entre dans le vif du sujet concernant le salut en évoquant la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est un des thèmes qui traverse en particulier ces 8 premiers chapitres de cet épître. Le mot va revenir à peu près une dizaine de fois. Oui, Dieu se met en colère. Certes, la colère de Dieu n'a rien à voir avec nos colères. Nos colères injustes, nos colères partiales, notre courroux marqué au coin du péché. La colère de Dieu est une colère juste. Dieu étant parfaitement maître de lui-même dans sa colère, ses raisons sont légitimes. Mais c'est vrai, la Bible le dit de manière très claire, Dieu se met en colère. Et je suis absolument convaincu, Bible en main, que Dieu, à l'heure actuelle, est terriblement en colère. Et cette colère de Dieu n'est absolument pas incompatible avec son amour. Dieu est en colère précisément parce qu'il aime l'humanité, parce qu'il aime les hommes, parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il vous aime. Et parce que Dieu voit dans nos vies les dégâts dus à notre péché, à notre indifférence à son égard, à nos rébellions, à notre mépris de sa personne, à notre refus de voir les évidences de sa personne. Et dans ce monde de plus en plus chaotique, la réalité de Dieu n'en explose pas moins, peut-être jamais dans l'histoire. L'homme n'a pu toucher du doigt avec autant de puissance la réalité de l'existence de Dieu. Martin Luther King l'a rappelé d'ailleurs d'une manière extraordinaire en soulignant que lorsque l'homme se traîne dans la boue, tout rappelle qu'il est fait pour les étoiles. Et derrière le chaos de ce monde, on voit se profiler pourtant encore l'intelligence extraordinaire de notre Dieu créateur. Alors Dieu est en colère. Dieu est en colère et son premier message dans l'épître aux Romains et donc un message de condamnation. Paul affirme, du chapitre 1er, verset 18, au chapitre 3, verset 20, que l'humanité tout entière, irreligieuse et religieuse, est condamnée, coupable, au regard de Dieu, à cause de son péché. Son péché étant d'abord le refus de reconnaître la présence de Dieu, l'existence de Dieu, l'activité de Dieu. Culpabilité universelle des païens comme des juifs, des irreligieux comme des gens religieux. Et c'est là que nous avons vu hier soir dans Romains 1, versets 21 et suivants, les dégâts absolument terrifiants provoqués dans la vie de l'homme, tout d'abord dans son cœur, par le refus de Dieu. Cœur insensible, parce qu'insensé, cœur enténébré, recouvert d'un voile. Et parce que le cœur déraille, parce que la mentalité de l'homme déraille par rapport à Dieu, le corps se met à fonctionner complètement de travers, n'est-ce pas ? Et nous avons évoqué le drame de la perversion dans la sexualité, du refus de vivre à l'intérieur de son identité pour l'homme et pour la femme, et de tous les autres dégâts engendrés dans la vie de l'homme par le refus de Dieu. Anarchie intellectuelle, morale, affective, corporelle, toutes les facultés de l'homme sont mises au service du mal. Et il est une chose que nous n'avons pas spécialement soulignée hier soir, mais j'aimerais tout de même le faire. C'est dans ce chapitre premier et dans ce tableau abominable, cette mention, verset 27, du salaire que mâle et femelle, littéralement, reçoivent en eux-mêmes, le salaire que mérite leur égarement. Loi inéluctable des semailles et des moissons. Et nous vivons dans un monde terrible parce qu'aussi nous voyons tous les jours le résultat des semailles. Si on sème dans le domaine des déviations de la sexualité, on récolte aussi des choses terribles. Et on ne peut s'empêcher de penser ici, par exemple, à toutes les maladies sexuellement transmissibles, sida et autres, toutes ces terribles pestes modernes qui sont salaires que l'homme reçoit en quelque sorte. En lui-même, à cause de son égarement. L'auteur d'un livre sur les Esquimaux explique que ces derniers ont conçu un moyen très particulier de tuer les loups. Ils plantent un couteau dans la glace, manche en bas. Ensuite, ils mettent des morceaux de viande fraîche sur la lame et la laissent geler. Les loups sentent le sang de loin, viennent dévorer la viande. Et en léchant la viande gelée, ils sont tellement transportés de plaisir qu'ils finissent par se couper la langue sur la lame et par se nourrir de leur propre sang. Et ainsi, ils continuent à lécher de la sorte jusqu'à ce que finalement, ils meurent vidés de leur sang. C'est le spectacle terrible et profondément douloureux que nous offre notre monde moderne. Nous recevons en nous-mêmes le salaire que méritent nos égarements et notre mépris de Dieu. Au chapitre 3, versets 9 et suivants, nous avons vu comment l'intelligence, les mains, la langue, les pieds, les yeux sont contaminés par le virus du péché. Nous avons évoqué hier soir saint Augustin et je mentionnais son élève Alipius qui était avec lui dans le jardin au moment où Augustin s'est tourner vers Jésus-Christ par la lecture de Romains 13. Alypius qui s'est tourné à son tour vers Jésus-Christ, très frappé par cette visitation d'en haut dans le cœur de son maître, et est devenu ensuite son collaborateur pendant des dizaines d'années. Et dans les confessions de saint Augustin, nous avons une expérience d'Alypius qui était tout d'abord remplie de dégoût pour les diversements sanguinaires qu'étaient les combats de gladiateurs. Et un soir, Alypius fut pratiquement malgré lui entraîné jusqu'au cirque par quelques amis. Il résistait, mais ses amis eurent raison de lui, mais il était bien décidé à ne pas regarder. Il était là sur l'un des gradins au milieu des spectateurs qui criaient frénétiquement, mais il gardait ses yeux soigneusement fermés. Et voilà que soudain, la foule entière pousse une immense clameur. Une joie cruelle explose, passe de rang en rang. Et alors, saisi par la curiosité, Alypius ouvre ses yeux. Juste à temps pour voir l'un des gladiateurs tomber couvert de sang. Et alors, dans les confessions, Augustin raconte que Alypius s'est abreuvé avec avidité de cette violence malsaine, au point de tomber plus misérablement que le gladiateur. Il se croyait suffisamment fort pour résister, pour ne pas prendre plaisir à ce carnage, mais sa volonté n'était pas de taille à vaincre cette excitation diabolique qui s'en dégageait. Et dans les confessions, Augustin de dire qu'il était ivre de sanglante volupté. Il ne faisait plus qu'un avec ses amis et avec le mal qu'il avait abhorré. Oh, la découverte de notre capacité à faire le mal. Lorsque j'ai fait mon service militaire, j'ai travaillé dans l'aumônerie militaire dans l'ex-Allemagne fédérale. Et tout à fait au début, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme, un appelé du contingent, qui venait d'un petit village du nord de la France, village qu'il n'avait sans doute pas souvent quitté. Et il baignait dans une certaine innocence du jeune qui avait toujours vécu à la campagne. Nous avons pu, pendant quelques jours, nous entretenir de ce qui concerne Dieu. Et j'ai même eu l'occasion de prier avec lui. Et il était intéressant de voir ce jeune homme s'ouvrir comme une fleur à l'action de Dieu. Mais combien ma tristesse fut grande en découvrant assez rapidement que dans l'espace de 15 jours, 3 semaines, après ses premiers entretiens avec lui, ce jeune homme, apparemment tellement innocent à son arrivée à l'armée, était devenu le plus pourri de toute la compagnie. Il vivait désormais une sexualité débridée, un désordre moral absolument indescriptible, tout simplement parce qu'il avait été subitement plongé dans le milieu adéquat pour que tout ce qui était caché en quelque sorte là, dans sa nature, puisse enfin, hélas, se manifester pleinement. Vous avez remarqué notre première lecture dans Ésaïe 33, où il est question de d'interpellation, qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Et nous savons par l'Épître aux Hébreux que notre Dieu est un feu dévorant. Dans sa sainteté absolue, dans sa pureté absolue, inexprimable, qui fait de lui une personne totalement autre, totalement séparée des pécheurs que nous sommes, aux antipodes de ce que nous sommes. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Et à cette double question est donnée une réponse en plusieurs éléments qui font appel à nos organes, à notre corps. Il est question des pieds, celui qui marche dans la justice. Il est question de la langue, qui parle selon la droiture. Il est question de la mentalité, de l'intelligence, du raisonnement, c'est-à-dire du cœur, avons-nous dit hier soir, qui méprise un gain acquis par extorsion. Et je dirais qu'il y a là même un aspect du corps dans ce sens qu'il est question de finances, et que vous savez, comme je sais, que notre porte-monnaie, voire notre portefeuille, est bien le prolongement de notre corps. Hein. Ça fait mal, à quelque part, quand on touche à cette dimension de notre personne. Il est ensuite question des mains, qui secouent les mains pour ne pas accepter un présent. Il est question des oreilles, de l'oreille qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et ensuite, il est question d'Alipus, notre ami de tout à l'heure, puisqu'il est question de se bander les yeux pour ne pas voir le mal. Les pieds, la langue, l'intelligence, les mains, l'oreille, les yeux. Et c'est celui qui répand, qui obéit en quelque sorte, qui répond à toutes ces conditions, qui pourra voir le roi dans sa magnificence. C'est ce que nous dit le verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Dans la mesure où tous nos organes, à commencer par le cœur, fonctionnent de cette manière, nous verrons le roi dans sa magnificence. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui soit capable de me dire ce soir qu'il remplit toutes ces conditions. Mais moi, je vais vous dire très, très franchement que je ne remplis pas ces conditions. Dans chacun de ces domaines, que ce soit au niveau de la marche, du langage, du fonctionnement de l'intelligence, de l'utilisation de mes mains, de mes oreilles, de mes yeux, je plaide coupable. Je plaide coupable. Et donc je ne saurais subsister auprès de ce feu dévorant. Je suis condamné à être dévoré en quelque sorte par ces flammes éternelles. Et cela me fait penser à ce problème délicat de la rentrée du vaisseau spatial qui a tourné pendant un certain temps, qui est allé en apesanteur même, et qui, comme la fameuse station Mir l'a fait récemment, doit réintégrer la Terre. Non pas comme la station Mir pour être en grande partie désintégrée par l'énorme température liée à ce frottement de l'engin pénétrant dans les couches denses de l'atmosphère. Mais nous savons que les navettes spatiales, tous ces engins, n'est-ce pas, qui ont souvent ramené des personnes sur la Terre, devaient au contraire veiller à traverser ces couches denses en protégeant la vie de leurs passagers. Et je me souviens du suspense absolument extraordinaire, en particulier des premières expériences, lorsque la protection thermique des vaisseaux spatiaux n'était pas encore tout à fait au point. Et je pouvais imaginer ces hommes qui étaient là, à l'abri, dans le vaisseau, derrière ces tuiles thermiques à l'époque, ou ce bouclier thermique, et qui allaient pénétrer selon un certain angle dans ces couches denses de l'atmosphère. Et l'angle était très important. En quelque sorte, il fallait pénétrer dans les couches denses, et il faut toujours pénétrer dans les couches denses de l'atmosphère, selon un certain angle, il faut pénétrer par une porte. Si l'angle n'est pas respecté, si la porte est manquée, le résultat va être absolument catastrophique. Si l'angle est trop faible, le vaisseau de l'espace va rebondir, il va aller éternellement s'égarer sur une orbite non prévue. Et si au contraire l'angle d'entrée est trop aigu, le navire spatial en quelque sorte va se désagréger par cette intense chaleur. L'angle d'entrée dans l'atmosphère doit être d'une précision absolument rigoureuse. Et j'ai sous les yeux un court extrait d'un livre consacré à la conquête spatiale, un sujet absolument passionnant. Et l'auteur de ce livre raconte: le temps était venu pour la cabine de pénétrer dans l'atmosphère à une formidable vitesse. Il lui faudrait heurter sous un angle très précis la couche semi-solide dont dépend toute vie terrestre. Si elle fonçait droit sur la Terre, elle rencontrerait une telle opposition qu'elle brûlerait presque instantanément. Mais si elle formait un angle trop aigu avec l'atmosphère, elle serait incapable de la pénétrer et ressemblerait alors à ces pierres que les gamins jettent à la surface des étangs. Elle rebondirait à plusieurs reprises avant de repartir dans l'espace pour ne plus jamais reparaître. Puis, les réserves d'oxygène s'épuiseraient et l'homme reposerait sur son siège à tout jamais intact. Eh bien, il y a aussi, nous dit l'Épître aux Romains, un angle d'entrée dans l'atmosphère du ciel divin. On n'entre pas dans les couches denses de l'atmosphère du troisième ciel, du ciel de Dieu, n'importe comment. Il y a un angle très précis. Cet angle figure dans Ésaïe 33, verset 14-15, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. C'est un angle selon la droiture. Ce qui va être dit également dans le psaume 15 au verset 1 et 2. Ô Éternel, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Et nous l'avons dit, nous le redisons ce soir. Nul de nous ne peut prétendre, correspondre à cette exigence et pénétrer de la bonne manière dans ces couches denses de l'atmosphère céleste pour laquelle pourtant nous sommes faits, n'est-ce pas? Nous sommes faits pour vivre dans le ciel de Dieu, tout comme le poisson est fait pour vivre dans l'eau. Nous avons besoin de l'oxygène du ciel. Et l'homme en dehors de Dieu, aujourd'hui, comme toujours dans l'histoire, suffoque. Il est même considéré par Dieu comme mort, spirituellement, séparé de cet oxygène. Et heureusement, dans Romains, à partir du chapitre 3, nous avons la deuxième partie de cette philosophie du salut. Chapitre 3, verset 21, jusqu'à la fin du chapitre 5, qui est appelée la justification. Condamnation, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons pas rester auprès des flammes éternelles. Nous ne pouvons pas rester auprès du feu dévorant de la sainteté de Dieu. Nous sommes irrémédiablement condamnés. Nous avons besoin d'un bouclier thermique. Nous avons besoin d'un abri. Nous avons besoin d'une protection qui tienne le coup. Et c'est là qu'intervient ce message absolument extraordinaire. Dieu, en quelque sorte, a trouvé, c'est une manière très humaine de dire les choses, ce plan était prévu dans l'éternité. Dieu n'a pas été pris au dépourvu, il n'a pas dû chercher dans sa tête quelle solution il fallait immédiatement mettre sur pied à cause de l'attitude catastrophique de l'homme. Mais Dieu, à un moment donné donc de l'histoire, manifeste son amour à l'endroit de sa créature condamnée à cause de son péché. Et il le fait, il manifeste son amour tout en restant totalement juste. Dieu accorde un cadeau absolument fantastique à l'homme. Et ce cadeau, c'est son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ punit à notre place pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et pour que nous soyons déclarés justes, acquittés, innocentés, Dieu va en quelque sorte, Dieu le Père va mettre mes péchés au compte de Christ. Et Dieu va placer la justice de Christ sur notre compte. Et pour reprendre notre image scientifique de l'entrée du faisceau spatial dans les couches denses de l'atmosphère, Jésus-Christ nous donne, Dieu nous donne son Fils bien-aimé comme bouclier thermique. Nous pouvons les uns et les autres nous réfugier à l'abri. Derrière ce bouclier, pendant que, en quelque sorte, le vaisseau spatial pénètre dans ces flammes éternelles, dans ce feu dévorant, dans cette implacable sainteté, dans cette pureté absolue, insupportable. Et je me souviens du moment le plus terrible, en particulier durant les premières expériences de retour sur Terre des vaisseaux spatiaux. C'était le moment du blackout, lorsque pendant un certain temps, et le temps était relativement court, mais il apparaissait comme une éternité pour la NASA, et plus particulièrement pour les familles des astronautes. Ce temps pendant lequel toute communication était coupée entre le vaisseau spatial et les centres de contrôle de la NASA à terre. C'était le silence. Et dans ce temps de silence, c'était le cœur de centaines de millions de personnes sur Terre qui cessait presque de battre. je me souviens de ma propre angoisse. Lorsque je me disais en moi-même, mais est-ce que l'on va à un moment donné réentendre la voix de ces astronautes? Est-ce qu'il va y avoir à nouveau communication? Ou bien est-ce que le silence va continuer? Tout simplement parce que le vaisseau se sera désagrégé, aura littéralement fondu en quelque sorte, entraînant la mort de ces astronautes. Et alors quelle explosion de joie! Au moment où la voix retentissait à nouveau, ça y est, le plus dur est fait, n'est-ce pas? Les retrouvailles sont là. Et c'était aussi le constat. Au moment où l'on récupérait les astronautes de l'état des tuiles thermiques et du bouclier thermique qui souvent était presque entièrement fondu, n'est-ce pas, avait presque entièrement disparu peu à peu au fil des frottements, n'est-ce pas, et de cette descente dans l'atmosphère, ce bouclier prenait en quelque sorte sur lui ces flammes, cette chaleur intense qui aurait dû réduire à néant les personnes qui étaient cachées bien à l'abri. Et chers amis, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce blackout, ce silence impressionnant, est-ce qu'il n'y a pas comme une image de ce silence de la croix sur cette colline à l'extérieur des murs de Jérusalem, ce lieu du crâne où le Fils de Dieu, suspendu entre ciel et terre, s'est écrié à un moment donné, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Blackout. Silence divin. Le Fils, bouclier thermique, qui meurt pour que nous puissions, à l'abri, enfin réintégrer cette présence de Dieu qui nous a créés pour lui. Le voile qui se déchire. Du haut en bas, un chemin qui effrayait, la possibilité de vivre une relation heureuse, de plénitude, avec celui pour lequel nous avons été créés. La justification. Je suis déclaré juste. Je ne suis pas rendu juste. Je ne suis même pas considéré juste. Je suis littéralement déclaré juste. C'est un acte juridique correspondant à des délits qui se sont aggravés au fil du temps au point que finalement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce cher ami a été condamné au bagne. Et alors qu'il devait partir pour la Guyane, la guerre étant très proche, il a échappé au bagne pour se retrouver successivement dans les prisons les plus abominables que la France a comptées dans son histoire, l'île de Ré et d'autres. Où pendant des années, les prisonniers condamnés à de très lourdes peines mouraient littéralement comme des mouches. Et c'est là que ce cher ami à rencontrer Jésus-Christ, recevant un évangile, se plongeant dans sa lecture et finissant par plaider coupable, reconnaissant sa condamnation, son besoin de pardon, de purification, de changement profond dans les racines de son être et sa conduite. À partir de là, a radicalement changé. Lorsqu'il est entré dans ses prisons, il était interdit de séjour dans plusieurs pays d'Europe, la Suisse, la Belgique,
Et son attitude, son comportement a tellement changé que non seulement le président de la République, Vincent Auriol, l'a gracié, mais qu'on a fait quelque chose qui est très très rarement fait dans l'histoire. Vous l'avez ici. C'est un extrait de casier judiciaire vierge. C'est très très rare. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que cet ami, qui était breton, s'est installé ensuite en Suisse pour exercer un métier de cuisinier dans une œuvre évangélique. Et que finalement, non seulement il a été réintégré par la Suisse, pays dans lequel il était interdit de séjour à cause de sa conduite tellement scandaleuse dans le passé, mais lorsque, à peu près âgé de 80 ans, il a demandé la nationalité suisse et qui ne s'obtient pas facilement, croyez-moi. Il a passé l'examen, il a rempli toutes les formalités, etc. Et il est devenu citoyen suisse. Et nous avons eu le privilège de l'accueillir à diverses reprises dans notre ministère, au point même que nous avons effectué un long voyage en Grande-Bretagne pour des séries de conférences, alors que nous avions une petite fille, notre aînée, Myriam, qui est d'ailleurs venue ici en Martinique, il y a déjà pas mal de temps. Et mon bonheur, c'était de raconter à nos amis britanniques, lors des réunions, que notre petite fille était gardée par un ancien quasi-bagnard, gravement coupable. Alors leurs cheveux se dressaient quelque peu sur la tête, jusqu'à ce que nous leur racontions comment la vie de cet ami avait changé. Eh bien cela, voyez-vous, l'histoire de mon ami Théo, qui a exercé pendant ensuite des dizaines d'années un ministère extraordinaire dans toutes les prisons d'Europe francophone. L'histoire de mon ami Théo, ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que Dieu a payé le prix fort en donnant son Fils Jésus-Christ. Dieu a payé le prix fort. Romains chapitre 3, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Tous ont failli. Tous se situent en dessous du niveau de la gloire de Dieu, de l'impeccabilité de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, du caractère de Dieu. Tous ont péché. Tous ont failli. Tous ont manqué le but. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et puis éclate ce coup de trompette extraordinaire et ils sont gratuitement justifiés, déclarés justes. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va utiliser ce qu'on appelle un pléonasme, va se répéter. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement par sa grâce. Par la générosité inouïe de Dieu. Non seulement à l'endroit de ceux qui n'ont aucun mérite, mais à l'endroit de ceux qui ont démérité. C'est ça le côté absolument extraordinaire de cette déclaration de justice. Elle est faite à l'endroit d'hommes et de femmes qui qui ont totalement démérité. C'est ce que Paul redira avec force au chapitre 5, au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, déclarés justes par son sang, serons-nous sauvés par lui, loin de la colère. Nous avons évoqué la colère tout à l'heure, la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, avons-nous lu au verset 24 de Romains 3, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat d'un prisonnier, du rachat d'un esclave, du rachat au moyen d'une rançon, littéralement. Moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croiraient, expiation, moyen d'expiation, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Oh, quel merveilleux message que celui de ma justification, cet acte gratuit de Dieu, du Dieu souverain, qui couvre nos péchés, et qui nous communique la justice parfaite de Christ. Dieu me voit juste en son Fils, Jésus-Christ. Dieu me voit juste. Et j'ai souvent raconté l'histoire de cet homme en voyage en Norvège, qui vient visiter une certaine église dans un village. Il regarde le clocher, il est très étonné de voir un agneau sculpté tout en haut de ce clocher. Et intrigué, il interroge la population, mais pourquoi a-t-on mis cet agneau sculpté à cet endroit? Et les gens de lui raconter qu'au cours de la construction de l'église, un ouvrier était tombé du haut de l'échafaudage. Et ses collègues de travail s'attendaient à ramasser un corps inanimé sur la chaussée qui passait là en dessous de l'échafaudage. Ils se précipitent, ils descendent, et quand ils arrivent là, que voient-ils? Leur collègue qui est en train de se relever, quelque peu commotionné, mais non blessé. Mais au moment où il se relève, les collègues découvrent, sous son propre corps, le corps d'un agneau qui avait été écrasé par le poids de l'homme dans sa chute. Parce qu'un troupeau venait tout juste de passer par là, un troupeau de moutons, au moment où cet homme tombait. Et donc en souvenir de ce véritable miracle, cette intervention providentielle, on avait sculpté un agneau pour se souvenir à jamais qu'un agneau avait perdu la vie pour qu'un homme puisse la conserver. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus. Écoutez ce témoignage de John Bunyan, l'auteur du Voyage du Pèlerin, ce livre tellement connu. Tandis que je déambulais dans la maison comme le plus malheureux des hommes, soudain, la parole de Dieu transperça mon cœur. Tu es gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Oh, Quel changement cela produisit en moi. J'eus enfin l'impression de sortir d'un long sommeil troublé de mauvais rêves. Lorsque j'entendis cette affirmation divine, ce fut comme si quelqu'un s'était adressé directement à moi. Pécheur, tu t'imagines qu'à cause de tes péchés, de tes penchants mauvais, je ne peux sauver ton âme, mais vois-tu, mon fils est auprès de moi. C'est à lui que je regarde et non à toi. Et je te traiterai à la mesure du plaisir que j'éprouve en mon fils. Nous l'avons dit. Dieu nous voit juste en Christ. Et c'est là qu'intervient un mot important. Nous sommes déclarés justes, innocentés, revêtus de la justice de Jésus-Christ par la foi, par cet acte personnel de confiance dans le cadeau que Dieu nous offre royalement à nous qui avons démérité. Par la foi. Et Martin Luther l'a remarquablement expliqué dans un texte que je vous livre, il est très très beau. Ce que le Christ possède appartient à l'âme croyante. Ce que possède l'âme appartient au Christ. Ainsi, le Christ possède tous les biens et la béatitude, l'âme les acquiert. L'âme est chargée de tous les vices et de tous les péchés, le Christ les prend sur lui. Il y a ainsi un échange, un commerce bienheureux. Par l'anneau de fiançailles, c'est-à-dire la foi, il fait sien le péché de l'âme croyante comme s'il l'avait commis lui-même. Le péché est ainsi englouti, noyé en lui. Sa justice surabondante dépasse tous les péchés. Aussi, l'âme est-elle affranchie de tous les péchés à cause de sa dot qui est la foi. Elle reçoit la justice éternelle du Christ, son fiancé. N'est-ce pas une bienheureuse alliance? Ce riche, noble, pieux fiancé épouse la pauvre fille méprisée, mauvaise. Il la libère de tout mal et l'enrichit de tous ses biens. Ses péchés ne peuvent pas la condamner. C'est le Christ qui les porte. Ils sont engloutis par lui. Elle a en son époux une abondante justice qu'elle peut opposer à tous les péchés dont elle est coupable. L'anneau de fiançailles. La foi. Cette foi à don de Dieu. Ce cadeau de Dieu déposé dans le cœur de l'homme. Dieu fait tout pour que nous connaissions dans notre vie la justification. Dieu fait absolument tout. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et Dieu peut, ce soir aussi, par sa parole, susciter dans notre cœur cette foi qui va s'emparer de ce message divin, révolutionnaire, qui n'appartient à aucun système religieux de ce monde, qui est le propre du christianisme authentique, celui des Écritures. Et là même, s'il m'est arrivé dans le passé, à telle ou telle occasion, de raconter cette histoire, je voudrais ce soir la rappeler, d'autant plus que certains d'entre nous ne la connaissent sans doute pas. C'est une petite expérience vécue le 13 octobre 1986, lors d'un de mes voyages à Madagascar. J'étais ce matin-là dans la banlieue de Tananarive, au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il était 9 heures à peu près, et je rencontrais mon Dieu dans sa parole pour préparer ma journée, préparer aussi la conférence du soir qui s'inscrivait dans une série d'enseignements bibliques donnés dans une des églises de la capitale. Et ce matin-là, ma méditation suivie des Écritures me conduisait dans Luc au chapitre 12, où j'étais en train de me pencher d'une manière toute particulière sur le verset 22, dans lequel Jésus dit ensuite à ses disciples: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et j'étais plongé dans un moment de réflexion personnelle devant Dieu sur ce passage. L'importance de ne pas s'inquiéter pour le vêtement. Lorsque précisément, dans ce moment de réflexion sur ce sujet, le téléphone sonne dans une pièce voisine. Et le secrétaire général de la Ligue à Madagascar de venir me trouver en me disant: écoute Maurice, c'est une communication pour toi. Et prenant le combiné, j'entendais donc à l'autre bout du fil un ami, que je connaissais très peu, et qui suivait cette série de rencontres dans une des églises de Tananarive. Et il se trouve que cet homme était un des hauts couturiers de Madagascar, qui notamment taillait les costumes pour la présidence de la République, etc., une sorte de Pierre Cardin malgache. Et à ma grande surprise, cet homme qui était disciple de Jésus-Christ, membre d'ailleurs du conseil de la Ligue malgache, de me dire: écoutez, voilà, je participe à ces soirées et cette nuit, le Seigneur a mis sur notre cœur, à mon épouse et à moi-même, de vous tailler un costume. Alors je lui ai dit: vous ne devinez pas quel est le sujet de la méditation des Écritures que vous venez d'interrompre par votre coup de fil. Et je lui ai donc cité le verset de Luc 12, 22. Il m'a donné rendez-vous dans son salon de haute couture, dans une des grandes rues commerçantes de la capitale. Et une heure après, je me retrouvais donc devant lui pour choisir avec lui un tissu bien entendu de qualité. Il prit mes mesures et me donna un rendez-vous dans les jours qui suivaient pour un premier essayage. Et je rentrais au siège de la Ligue me demandant si je n'étais pas en train de faire un rêve, si je n'étais pas autre part que sur la terre, surtout à Madagascar, vu les conditions de vie, l'état de délabrement économique, quasi de famine endémique dans certaines régions de l'île. Le soir de ce jour, le téléphone sonne à nouveau et c'était à nouveau mon tailleur. Catastrophé. Me disant: Monsieur Decker, je suis désolé, mais alors que nous étions en train de commencer à couper le tissu, à tailler, nous avons découvert deux trous. Deux trous faits par des mites. Et des trous placés à un mauvais endroit. Et bien sûr, dans ma petite tête, je me disais déjà: voilà mon costume qui est en train de disparaître de la réalité pour s'inscrire dans mes rêves. Mais lui d'ajouter aussitôt: écoutez, je suis absolument désolé, mais je dois vous demander de repasser parce qu'il faut que nous choisissions un autre tissu. Alors nous avons pris rendez-vous pour le lendemain parce qu'il était tard, et cette nuit-là, l'histoire du tissu déjà coupé de travailler mon esprit, je me disais: mais c'est quand même dommage. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas une solution, puisque c'est déjà coupé, et que c'est coupé à ma taille, selon mes mesures? Est-ce que peut-être
il n'y aurait pas une solution, qu'il essaye quand même de faire quelque chose, même si les trous étaient un peu rebouchés, bon, c'est quand même un tailleur hors norme. Et le lendemain matin, de m'ouvrir au secrétaire général de la Ligue en lui disant, écoute, voilà mon problème, est-ce que tu penses qu'il serait convenable, courtois, d'essayer de lui suggérer, plutôt que de couper un autre tissu, de trouver quand même une solution ? Et lui de me dire, oh, tu peux le faire, mais je suis quelque peu sceptique, je le connais, mais essaye, tente la chose, vas-y à pas feutrer. Alors, en arrivant au salon, avant qu'on choisisse un autre tissu, je dis à ce tailleur, écoutez, j'ose vous suggérer peut-être de ne pas essayer d'avoir un autre costume. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une solution ? Et que nous ne pourrions pas quand même faire quelque chose, même si ce n'était pas absolument fantastique. Vous avez peut-être quand même la capacité d'intervenir auprès de ces petits trous. Et je réalisais qu'effectivement, mon ami avait bien eu raison à la Ligue, parce qu'il en allait de la réputation de la maison. Comment oser proposer un costume avec des trous réparés quand on est tailleur de la présidence de la République, du monde ministériel et que sais-je encore. Et c'est ainsi donc que nous choisîmes un autre tissu. Et tenez-vous bien, le jour où je pris livraison de mon beau costume, il y en avait un second. C'était celui au trou rebouché. Et le tailleur était tellement habile qu'il avait même réussi à créer une sorte de prototype en sachant escamoter d'une manière très habile ces trous pourtant si mal placés. Et voilà donc que je suis reparti de Madagascar, non pas avec un costume, mais avec deux costumes. Démonstration de la toute suffisance du Seigneur pour chacun de nos besoins, même dans un pays inscrit parmi les plus pauvres de ce monde. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire ? Tout simplement à cause de la justification. Parce que c'est le message que Dieu m'a laissé, en particulier parmi d'autres, lorsque j'ai récupéré ces costumes et les ai portés. Je me suis souvenu aussi que dans un texte parallèle de Matthieu, il est dit que nous ne devons pas amasser des trésors sur la terre, là où la teigne, la rouille, les mythes détruisent et dévorent, mais que nous devons amasser des trésors dans le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de mythes, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne. Et voyez-vous, c'est cela aussi la justification. Le vêtement dont Dieu nous revêt, lorsqu'il nous justifie, lorsqu'il nous déclare juste, c'est le vêtement de son Fils bien-aimé. Et le vêtement de son Fils bien-aimé, la justice de son Fils bien-aimé, c'est une justice céleste. Ce n'est pas une sorte de justice simplement terrestre comme nos justices humaines. Et dans le manteau de la justice parfaite de notre Dieu, du Seigneur Jésus, il n'y a pas de trou. Parce qu'il n'y a pas de mythe. Quand je suis justifié, quand je suis innocenté, quand je suis acquitté, quand je suis déclaré juste, Dieu me voit au travers de l'impeccabilité absolue de son Fils Jésus-Christ. Ça, mes bien-aimés, c'est véritablement le summum, je dis bien le summum de la grâce.
de la générosité inouïe de Dieu qui a fait écrire à quelqu'un « Comme la mer avide cherche le long des récifs une ouverture dans laquelle se jeter et qu'elle bouillonne jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée, ainsi l'amour de Dieu attend impatiemment à l'extérieur de notre cœur jusqu'à ce que nous l'ouvrions à la confession et à la repentance. » Dieu pardonne ensuite, non seulement chichement, c'est-à-dire avec avarice et à contre-cœur, mais royalement, abondamment, gracieusement. Son pardon est digne de sa personne, proportionné aux ressources de son être glorieux et selon les richesses de sa grâce. Il fait plus que pardonner, il oublie, il fait plus qu'oublier, il fait sonner le carillon de la fête, il fait encore plus que cela, il incruste des joyaux dans les cicatrices de nos péchés. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Et tout cela à cause du sang qui a libéré cette abondance de miséricorde. Et les premiers, je termine par là, les premiers résultats de ce grand miracle qui descend directement de la croix de Golgotha. C'est la paix. C'est la paix avec Dieu, c'est-à-dire la paix par rapport à Dieu. C'est la réconciliation avec lui. Dieu n'est plus en colère contre moi. Et je peux entrer en permanence dans sa présence. Chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifié, donc déclaré juste, acquitté, innocenté par la foi, nous avons la paix littéralement par rapport à Dieu. Et ceci par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à cette faveur, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'endurance, la constance, la ténacité. Et cette persévérance, la fidélité éprouvée, la victoire dans l'épreuve, la fidélité éprouvée, et cette victoire, l'espérance, qui nous intéressera demain soir. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, hors du cœur de Dieu, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quel message extraordinaire! Première conséquence de cette justification par la foi. Alors demain soir, nous allons commencer par évoquer cette justification par la foi dans le chapitre 4, parce qu'il est question de deux personnages dans le chapitre 4. Justification par la foi dans la vie de David, et justification par la foi dans la vie d'Abraham. Et alors là, nous verrons réapparaître l'importance du corps. Offrez vos corps, puisque le corps est continuellement présent tout au long de ces chapitres, n'est-ce pas, pour culminer dans ce chapitre 12, dans cette partie pratique de l'Épître aux Romains. Nous verrons la place du corps à partir de cette justification, pour aller vers la sanctification, puis la glorification. Et puis, vers la fin de la semaine et dimanche matin, nous verrons alors tout ce que cela signifie concrètement dans notre vie de tous les jours. Mais vous comprenez pourquoi il était important jusqu'ici, pourquoi il est important de bien mettre Romains 12, 1 et 2 sur sa véritable toile de fond. Romains 12, 1 et 2 prend un relief absolument merveilleux lorsqu'on l'installe comme un joyau dans l'écrin, en particulier de ces 8 premiers chapitres. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, soir après soir, c'est de nous arrêter simplement sur un tout petit mot, une conjonction de coordination de Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, donc. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est un seul petit mot. Je vous exhorte donc. Parce que vous étiez condamnés. Parce que vous avez été déclarés justes. Parce que vous croissez dans la sanctification. Parce que vous êtes en marche vers la glorification. Donc, à cause de cela, offrez vos corps en sacrifice vivant. Nous voulons prier. Seigneur, lorsque nous nous penchons simplement sur ta parole, lorsque nous nous ôtons nos chaussures pour marcher sur ce sol sacré de ton univers, des flammes éternelles, de ce buisson ardent, nos cœurs sont toujours portés à t'adorer. Et ce soir, nous inclinons nos cœurs devant toi. Seigneur, pour nous qui étions condamnés et qui avons connu par pure grâce cette déclaration de justice à cause du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, ce revêtement de sa justice, Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous sommes portés à prosterner nos cœurs dans ta présence. Seigneur, un merci infini pour ce miracle venu d'en haut, pour ce bouclier thermique, pour ce vêtement parfait, sans trou, sans mite, sans teigne, sans rouille. Merci d'avoir même mis en nous cette dimension de foi pour que nous puissions simplement saisir tes affirmations, tes promesses à cause de la croix qui s'est dressée à Golgotha et à cause du tombeau vide de la résurrection de ton Fils bien-aimé. Et Seigneur, ce soir nous te prions les uns pour les autres et nous pensons d'une manière toute spéciale à tel ou tel au milieu de nous, mais aussi au dehors de ce lieu, dans nos familles, dans notre voisinage, qui est encore sous la condamnation. Seigneur, pour ceux qui seraient ici ce soir, déjà hier, et qui viendront encore, que cette semaine soit marquée d'un carillon céleste, de chant de joie, d'hymne à ta gloire dans le ciel par les anges, lorsqu'une brebis entrera dans la bergerie. Seigneur, sauve. Sauve et puis sanctifie-nous davantage jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre auprès de toi ou que tu attires ton Église auprès de toi. Merci de nous renouveler les uns et les autres. Tu connais notre fragilité, nos limites humaines, nos fatigues. Tu sais cela. Nous te les remettons. Seigneur, que notre sommeil soit réparateur. Prépare-nous à une journée qui demain te glorifiera et à une soirée de demain qui t'honorera. Merci pour ta grâce qui nous a accompagnés et portés tout au long de cette soirée. Nous t'en bénissons en ton Fils Jésus-Christ. Amen.